Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, la régulation mondiale en marche, pression des investisseurs, accès au financement de plus en plus conditionné. L'ESG est-il en train de redéfinir les règles du capitalisme mondial? Et surtout, l'Afrique est-elle prête pour cette nouvelle ère économique entre opportunités stratégiques, marchés carbone prometteurs et risques réputationnels capables de faire tomber des géants? Les entreprises africaines peuvent-elles transformer cette contrainte en avantage compétitif? Dans votre émission Planète Business aujourd'hui, nous allons poser les vraies questions. L'ESG est-il un coût ou la clé de la survie des entreprises à l'horizon 2030? Et pour en parler, nous sommes avec M. Majid Touré, fondateur et consultant principal à Green Future Africa. Rebonjour M. Majid.
Rebonjour mon cher Babacar. C'est un plaisir de répondre à ton invitation. Voilà. Et comme d'habitude, nous parlons de durabilité et d'entreprises africaines face à la conformité internationale.
Et comme d'habitude, cette fois-ci, nous allons être au cœur de la RSE. Et justement, M. Touré, la RSE est-elle en train de devenir une obligation réglementaire mondiale ?
Oui, la RSE est en train de devenir une réglementation mondiale progressivement et surtout qu'en Europe, la Corporate Sustainability Reporting Directive impose un reporting extra-financier détaillé. Les normes à l'international s'harmonisent, voilà. Et les standards internationaux s'alignent sur une certaine conformité. Même si beaucoup de pays africains aujourd'hui n'ont pas encore d'obligations aussi strictes, les entreprises exportatrices sont indirectement concernées via leurs partenaires européens et internationaux.
Et dans cette même dynamique aujourd'hui, la question aussi est de savoir est-ce que les entreprises africaines sont-elles réellement concernées ou est-ce un sujet occidental ?
Elles sont directement concernées. Les entreprises africaines sont directement concernées. Les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement mondiales exigent une traçabilité et une conformité carbone. Voilà. Et les bailleurs comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement conditionnent de plus en plus leur financement à des critères ESG.
À des critères.
Donc, une PME marocaine, une PME ivoirienne ou une PME sénégalaise exportant vers l'Union européenne devra prouver sa conformité environnementale.
Prouver sa conformité environnementale. Aujourd'hui, à l'horizon 2030, une entreprise sans stratégie ESG pourrait-elle encore, puis bien évidemment, concrètement aussi, accéder au financement selon vous ?
Alors, de plus en plus difficilement, les entreprises pourront accéder au financement car les banques intègrent désormais un scoring climat. Voilà, une gestion risques environnementaux et une exposition carbone. Les investisseurs, eux, privilégient les entreprises capables de démontrer leur résilience et la gestion des risques climatiques.
Et dans cette même orientation de la gestion donc, climatique, l'ESG aujourd'hui est-il aussi un coût supplémentaire ou un investissement stratégique ?
Alors, on pourrait partir sur deux points. À court terme, l'ESG est un coût, voilà, puisque il y a une phase audit, reporting et structuration. Et à moyen terme, c'est un levier de performance. Les entreprises structurées ESG vont attirer plus d'investisseurs, réduire les risques juridiques et améliorer leur réputation en optimisant leur efficacité énergétique. Donc l'Afrique aujourd'hui, l'ESG pourrait être un facteur de différenciation majeur pour ces entreprises-là.
Et par rapport à ces entreprises, quand on parle de ces entreprises, il y a aussi un point, les PME africaines. Aujourd'hui, est-ce que ces structures ont-elles les moyens de mettre en place une stratégie ESG ?
Alors, les entreprises aujourd'hui ont la possibilité de mettre en place une stratégie. Voilà, il existe plusieurs normes qui demandent à ce que les entreprises puissent s'organiser. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, elle pourra mettre en place sa stratégie, adopter l'approche idéale pour son secteur. Voilà. Il ne s'agit pas d'appliquer mécaniquement des standards européens, mais de structurer une gouvernance minimale qui lui permettrait de formaliser des politiques sociales, mesurer progressivement son empreinte environnementale. Donc l'enjeu est l'appropriation locale, pas la complexité excessive.
Par cette complexité excessive d'ailleurs, il s'agit aussi de voir le marché du carbone africain. Aujourd'hui, est-ce que ce marché peut-il réellement devenir un levier stratégique d'ici 2030?
L'Afrique dispose d'importantes capacités agroforesterie, de restauration des terres et énergie renouvelable. Donc oui, c'est un potentiel considérable. Donc, des initiatives liées à l'accord de Paris favorisent le développement du marché carbone structuré et les entreprises agricoles, forestières et énergétiques africaines ont une opportunité stratégique.
Par rapport à cette opportunité stratégique, nous allons aujourd'hui faire le point d'abord de cette actualité RSE dans votre rubrique Minute RSE, où nous allons faire le tour de cette actualité en Afrique et dans le monde, avant de revenir avec notre invité, je rappelle qu'il s'agit de Monsieur Majid Touré.
Bienvenue dans votre Minute RSE. La responsabilité sociétale des entreprises change d'échelle dans le monde et l'Afrique veut clairement prendre sa place. Aujourd'hui, l'investissement durable représente déjà plus de 45 milliards de dollars dans le monde et la tendance s'accélère. Les analystes estiment que les actifs intégrant des critères ESG pourraient atteindre plus de 180 milliards de dollars d'ici à 2034. Autrement dit, la finance mondiale est en train de verdir. Du côté des investisseurs, le message est clair. Près de 8 sur 10 prennent désormais en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avant d'engager leur argent. Et l'Afrique est directement concernée. Le continent doit mobiliser environ 170 milliards de dollars par an pour financer ses infrastructures durables entre énergie propre, transport, agriculture résiliente ou encore ville durable. Un défi mais aussi une immense opportunité. Car le potentiel économique africain lié à la transition durable pourrait atteindre près de 8 milliards de dollars d'ici à 2030. Notamment grâce aux minerais stratégiques indispensables aux batteries, aux énergies renouvelables et aux technologies vertes. Résultat, de plus en plus d'entreprises et de marchés financiers africains adoptent le reporting ESG pour attirer les investisseurs internationaux. La RSE devient donc un levier de financement, de compétitivité et de transformation économique.
De retour, après bien évidemment ce tour de l'actualité RSE, Monsieur Touré, aujourd'hui, la pression viendra-t-elle plus régulateurs ou des investisseurs?
Alors, la pression viendra des deux organismes. Voilà. Donc, le régulateur va donner ses directives, mais les investisseurs iront plus vite. Les fonds internationaux appliquent déjà des filtres ESG stricts. Les régulations nationales africaines évolueront plus progressivement, mais sous pression internationale. Et le marché va imposer l'ESG avant même que les lois locales ne le fassent.
Et aujourd'hui, par rapport à ces lois locales dont vous parlez, il y a aujourd'hui une question lancinante qu'on se pose. Le risque réputationnel peut-il aussi menacer la survie d'une entreprise?
Absolument. Absolument. Nous sommes à l'ère du numérique, donc les scandales environnementaux et les atteintes aux droits humains, ainsi que la corruption, peuvent entraîner l'exclusion de certaines entreprises du marché international. Alors, la réputation ESG sera un actif stratégique pour les entreprises africaines à l'horizon 2030.
Et par rapport à cet horizon 2030, l'ESG peut-il d'ailleurs devenir aussi un avantage compétitif pour les entreprises africaines de manière concrète?
Oui, c'est un avantage compétitif pour les entreprises africaines et potentiellement plus qu'en Europe parce que moins de saturation concurrentielle sur le positionnement durable, des opportunités de financement climatique et la forte demande en projets à impact.
Alors aussi, en 2030, quelle entreprise risque réellement de disparaître selon vous ?
Alors, les entreprises qui risquent de disparaître sont celles qui ignorent les risques climatiques, celles qui refusent la transparence et dépendent des modèles fortement carbonés. Et surtout, si elles n'intègrent pas les exigences des partenaires internationaux. Et à l'inverse, suivront celles qui mesurent leur impact, anticipent la régulation et transforment la contrainte en innovation.
Et aujourd'hui, M. Touré, si vous aviez un conseil ou bien une orientation à donner également à ces entreprises, aussi par rapport à cette politique de RSE-ESG, à l'horizon 2030, notamment en Afrique, ce serait quoi ?
Alors, c'est de s'affirmer en tant qu'entreprise responsable, voilà, en instaurant, en mettant en place une stratégie, une politique RSE et une stratégie qui leur permet de mesurer leur impact, des indicateurs qui leur permettra de retranscrire les preuves de leur responsabilité en tant qu'entreprise responsable. Voilà, il ne s'agit plus aujourd'hui de faire de la RSE, mais comment l'ESG peut structurer la performance et la pérennité de son entreprise.
Et la pérennité aussi de cette entreprise dans le cadre de la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci encore à vous, Majid Touré. Je rappelle donc que vous êtes aussi fondateur et consultant principal à Green Future Africa.
Très bien, je vous remercie mon cher Ababakar et je vous dis à très bientôt pour un autre thème à partager avec les entreprises africaines.
Et à vous aussi, chers auditeurs, à la prochaine, toujours dans votre émission Planète Business, pour parler de l'évolution du monde dans le cadre de la RSE, mais aussi de la durabilité. Prochain numéro, pris avec vous, au plaisir.